Merci. Bonjour à tous. Donc, nous allons entamer ce forum qui concerne la querelle des agrocarburants. Pour ce forum, sont réunis donc ici Alain Lipietz, député européen, qui vous présentera le contexte de la discussion, de la négociation sur les agrocarburants au Parlement européen, et de quelle manière il a été particulièrement sensibilisé à cette question dans le cadre de sa délégation pour l'Amérique latine. Ensuite, nous aurons Emmanuel Grunemann, qui est primatologue et qui connaît extrêmement bien la forêt indonésienne, et qui vous racontera le désastre produit sur la forêt indonésienne par la question des agrocarburants. Ensuite, nous aurons Wim Kersten, qui fait partie des Verts des Pays-Bas et qui nous racontera de quelle manière les Pays-Bas sont, entre guillemets, plus en avance que la France en ce qui concerne la consommation d'énergie à base d'huile de palme. Il vous racontera comment les Pays-Bas reviennent en arrière sur cette question. Nous aurons ensuite un petit film sur un quartier de Grande-Bretagne qui est totalement autonome en énergie. L'idée, c'est de articuler ce débat avec les alternatives concernant les consommations d'énergie. Et puis, Christian Couturier de Solagro qui nous parlera des alternatives. Patrick Sadone, agriculteur qui arrive dans peu de temps et qui parlera de la perception d'un agriculteur français par rapport à cette question des agrocarburants. Et pour terminer, Yveline Nicolas qui représente le RADIS, c'est-à-dire le réseau pour une alimentation et une agriculture durable, inventive et solidaire. Réseau qui regroupe notamment toutes les organisations qui se bagarrent contre les agrocarburants et notamment au sein du Grenelle de l'environnement. Donc, pour commencer, Alain.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je vais d'abord vous raconter comment nous sommes arrivés à cette question de la querelle des agrocarburants, telle que je l'ai perçue moi. Alors, un double titre. D'une part, j'étais en 92, au moment de la conférence de Rio, le rapporteur pour l'UNESCO des négociations, à la fois sur la biodiversité et sur l'effet de serre. Et donc, je voyais se profiler à l'horizon, mais c'était quelque chose de tout à fait théorique, un moment où la défense de la biodiversité allait rentrer en collision avec la question de l'énergie. En effet, les écologistes, toutes tendances confondues, face à la montée du risque effet de serre, sachant depuis longtemps qu'il y avait un risque nucléaire, disait, attention, nous allons avoir besoin de développer des énergies alternatives, mais elles vont percuter sur un troisième risque, qui est les conflits pour l'utilisation du sol. On parlait à l'époque, en 1992, du triangle des risques énergétiques, effet de serre, usage des hydrocarbures fossiles, risque nucléaire, guerre, accidents, explosions, déchets, etc. Et troisième pôle des risques, les conflits pour l'utilisation des sols, c'est-à-dire si on utilise la biomasse énergie, ben, elle se fait au détriment du sol pour l'alimentation, par exemple, mais aussi pour la biodiversité. Alors c'était à l'époque totalement théorique. À l'époque, il était tout à fait clair que les Verts se battaient pour développer les énergies renouvelables. Il est évident que l'énergie renouvelable la plus fondamentale, celle avec laquelle a commencé la civilisation humaine, c'est l'utilisation de la biomasse, hein, faire brûler du bois. Brûler du bois, la paille ou n'importe quoi, c'est-à-dire l'utilisation de cette partie de l'énergie solaire qui a déjà été stockée sous forme de masse végétale par la fonction chlorophyllienne. Bon, on s'est donc battu pendant très longtemps pendant une dizaine d'années au sein de l'Union européenne, par exemple, aussi au sein de la France, évidemment, pour dire, mais dans les conseils régionaux, pour dire il faut développer une filière bois-énergie, il faut développer une filière recyclage, etc., etc. Tant que la conscience des risques nucléaires et la conscience des risques climatiques n'étaient pas suffisamment élevées chez nos partenaires des autres forces politiques et des autres forces sociales, évidemment, on n'avait pas beaucoup de succès. Et puis alors, brutalement, ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré parce que, avec la montée du risque climatique de plus en plus dénoncé par les rapports du panel international sur le changement climatique, puis la montée du prix du pétrole, tout simplement, eh bien, même les productivistes se sont mis à chercher d'autres sources d'énergie. Comme vous le savez, à part en France, il y a quand même un fort blocage contre l'énergie nucléaire, notamment pour toute l'Europe du Nord et de l'Est. Donc, la troisième solution et le troisième risque arrivaient très vite au premier rang, c'est-à-dire on va faire de la biomasse. Faire de la biomasse, pour nous, c'était une première victoire. Utiliser la biomasse pour faire l'énergie, au début, pour nous, c'était perçu comme une victoire. Donc, quand l'Union européenne a fixé un horizon de 5,75% de biomasse dans l'énergie à l'horizon 2010, on a plutôt considéré ça comme une victoire. Mais immédiatement, on s'est rendu compte que, comme chaque fois, hein, c'est pour ça qu'il faut toujours, faut pas avoir peur de la récupération, mais savoir qu'elle a toujours lieu, à peine avions-nous gagné, empoché cette première victoire, que tout de suite, les problèmes sont apparus, car le productivisme allait trouver moyen de transformer cette idée qui centralement était dans notre tête, utiliser une biomasse dont on ne se servait pas pour faire de l'énergie, allait inventer des solutions qui consistaient à produire encore plus pour faire cette biomasse. En 92, on disait par exemple couramment, pour illustrer notre propos, que si on utilisait simplement la taille des haies, nous sommes en Bretagne, des pays de bocage, des départements de bocage, ça suffisait à la taille des haies, hein, simplement dans les pays de bocage, ça suffisait à couvrir un tiers des besoins en énergie des départements correspondants. Donc on insistait sur le fait que de la biomasse, on en avait en rabe, qu'on n'utilisait pas. Dans les banlieues, on tend le gazon. Nous allons voir tout à l'heure à Belzède, à Londres, qu'au cœur des villes, avec nos propres déchets ménagers, nos épluchures de pommes de terre, on a déjà largement assez pour au moins assurer l'énergie dont a besoin un bâtiment. Mais ce n'est pas du tout ça la réponse qu'allait donner le capitalisme productiviste à cette première victoire de pouvoir fixer un horizon de 5,75% de biomasse dans l'énergie. Ça a été au contraire de développer de la production de nouvelles biomasses spécialisées dans l'énergie. Alors c'était dès 92, hein, on l'avait bien vu. Alors, on avait déjà une polémique avec la FNSEA. Dès 92 et à Rio, la FNSEA exigeait qu'on lève la jachère en Europe pour produire plus, pour produire de la biomasse. De façon, alors la biomasse soit sous forme des plantes à sucre, c'est-à-dire ce qui donne l'éthanol, soit sous forme de plantes à huile, tournesol, etc., c'est-à-dire ce qui forme le diesel, mais dans les deux cas, il s'agissait de planter, avec tout ce que ça impliquait de consommation d'eau, de pesticides et d'engrais, de façon à produire l'énergie, avec un rendement énergétique dont vous imaginez bien qu'il n'est pas extraordinaire. Bon, mais dans mon activité de président de la délégation du Parlement européen pour la communauté andine des nations, je me suis aperçu qu'il y avait une autre conséquence encore plus dramatique, c'est que faute de pouvoir produire cette masse, cette biomasse industrielle sur son propre territoire, l'Europe, comme les États-Unis avaient déjà commencé, comme le Japon avait commencé depuis longtemps, allait se mettre à la produire dans le tiers-monde. Et je me suis heurté très violemment à ce problème-là quand le président de la Colombie, Uribe, a passé un pacte d'amnistie avec les paramilitaires qui contrôlent pratiquement toute la zone bananière du nord-ouest de la Colombie. Les paramilitaires étaient essentiellement des dans cette région-là des gens qui étaient des hommes de main, des bananiers, contre les syndicalistes. Et bien, contrairement à ce que je pensais, les terres qu'ils avaient réussi à voler aux paysans n'ont pas été utilisées pour faire des bananes, mais pour planter de l'arbre à palme, c'est-à-dire le principal arbre exotique qui permet de produire de l'huile, de façon à produire du diesel. Alors, voyant ça, j'ai commencé à m'inquiéter. Et à ce moment-là, l'Europe, toujours sous la pression de la montée du risque climatique et de la pression de la montée du prix du pétrole, a surenchéri. C'est-à-dire, on avait dit 5,75% en 2010, 10% à l'horizon 2020. À ce moment-là, ça devenait énorme. Et il devenait à peu près évident qu'avec la surface agricole européenne, on n'arriverait pas et que forcément, ce serait pour une large part de la biomasse importée. Si on avait vraiment cette optique de produire des plantes pour faire de l'énergie. À ce moment-là, les Verts au Parlement européen, quand il y a eu ce premier rapport de la Commission, c'était en décembre dernier, pas plus tard qu'en décembre dernier, les Verts ont dit, d'accord, on n'a rien contre la biomasse énergie, on s'est toujours battu pour. Mais, en fixant des critères, c'est-à-dire que la biomasse énergie ne devait jamais rentrer en contradiction, en opposition, ni avec la surface servant à nourrir les humains, ni avec la surface servant à entretenir la biodiversité. Nous avons déposé des amendements en ce sens sur le rapport à propos de l'énergie 2020, et nous sommes retrouvés absolument tout seuls. En décembre 2006, au Parlement européen, aucun groupe ne voyait de problème à importer du monde entier des huiles et des sucres pour faire de l'énergie en Europe, pour faire rouler les voitures en Europe. Alors là, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai problème. Nous avons sorti la carte postale que je n'ai pas amenée, mais qui est sur l'affiche. Hein. Manger ou conduire, il va falloir choisir. Hein. Vous pouvez la commander, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez la télécharger sur le site des... Là, ici. Et j'ai organisé un colloque à Bruxelles que j'ai fait publier par le journal Politis. On a fait publier les actes dans le journal Politis. Vous en avez ici tout un paquet gratuit, là, vous vous servez. Si vous n'en avez plus au moment où vous vous levez, alors ne vous ruez pas dessus, s'il vous plaît. Restez assis, s'il vous plaît. Vous l'en prendrez tout à l'heure. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours le télécharger. Il est sur mon site également. Alors, on a vu très vite l'opinion réagir. Hein. Dès le mois de mai, vous commenciez à voir dans une série de journaux une alerte sur, y compris en France, sur « attention, ne faisons pas de bêtises, ne recommençons pas les bêtises sur ce qu'on appelait encore à l'époque les biocarburants. Hein, » on a commencé à les appeler agrocarburants. Cocopelli, l'association qui sauve des graines, l'appelle carrément des décrocarburants parce que ça tue. Alors, je crois que nous sommes dans une bataille qui s'engage, où on a réagi avec un petit temps de retard au dévoiement de notre mot d'ordre, utiliser des énergies renouvelables pour développer, alors le capitalisme en donnant sa traduction, plantons des plantes qui serviront d'agrocarburant, et plantons dans le tiers-monde si nous n'avons pas la place de le faire en Europe. Nous allons vous montrer, premièrement, les dégâts que ça provoque dans le tiers-monde, comment en Hollande on a pu résister et comment on peut construire des alternatives, pas seulement en faisant des économies d'énergie, ce qui est quand même la principale façon d'échapper aux trois risques en même temps, mais également en faisant de la biomasse, tout simplement avec la biomasse que l'on a déjà. Ce n'est pas la peine d'en planter de nouvelles. Il faut utiliser rationnellement celle que nous avons déjà.
Alors, Emmanuel Grunemann, qui est aussi l'auteur de « Ces forêts qu'on assassine », ouvrage que vous pouvez trouver au stand d'Ecodif en bas.
Alors, bonjour. Donc, moi, je vais vous parler d'un cas très particulier, qui est celui donc de l'huile de palme qu'on vient de mentionner, et le cas de l'huile de palme en Indonésie, où j'ai travaillé. Alors, l'Indonésie comprend un immense bloc forestier qui est l'un des trois plus grands blocs de forêt tropicale, avec celui du bassin du Congo et celui de la forêt amazonienne. Les forêts en Indonésie sont d'une extrême variété. Elles vont de la mangrove aux forêts d'altitude, aux forêts tropicales de plaine. Donc on a toute une variété d'écosystèmes assez étonnantes, ou du moins on avait. Ces forêts tropicales indonésiennes abritent une très importante biodiversité, avec des espèces emblématiques que beaucoup de gens connaissent, en particulier l'orang-outan, le tigre, le rhinocéros de Sumatra, les oiseaux de paradis, le kangourou arboricole, etc., etc. Sauf que la réalité, elle est relativement sombre aujourd'hui, puisque dans les années 60, plus particulièrement en 1966, la forêt couvrait encore 75% du territoire, ce qui représentait 144 millions d'hectares. Et l'Indonésie se trouvait donc au troisième rang mondial en termes de superficie de forêt tropicale après le Brésil et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'Indonésie a perdu plus de 80% de sa couverture forestière et certaines îles, en particulier Sulawesi, sont déjà chauves. Sumatra l'est quasiment, j'étais l'année dernière, c'est absolument terrifiant. Bornéo risque de l'être d'ici une petite décennie. Donc on est vraiment dans une situation catastrophique et les responsables sont divers. On a d'abord l'exploitation du bois qui est le premier responsable en termes historiques, avec des bois tropicaux qu'on retrouve dans nos meubles, nos parquets, etc., comme le merantil, le merbau, le kerwing, etc., mais aussi les monocultures qui sont devenues un problème de plus en plus important, avec les monocultures d'eucalyptus et d'acacia pour la pâte à papier, en particulier à Sumatra, et de manière beaucoup plus importante, les monocultures de palmiers à huile. Alors juste quelques mots sur la biodiversité, parce qu'on parle toujours de biodiversité quand on parle de problèmes écologiques, avec justement une chute de la biodiversité. Alors, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? En fait, ça regroupe trois choses différentes. Souvent, en fait, on réduit la biodiversité à un seul aspect, qui est la diversité dite spécifique, c'est-à-dire, en fait, le nombre d'espèces totales dans une zone donnée, mais ça comprend aussi donc la diversité d'espèces, mais aussi de groupes taxinomiques, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a que des oiseaux, ou est-ce qu'il y a des oiseaux, des mammifères, des grenouilles, etc. La diversité génétique au sein des populations d'une même espèce, et la diversité qu'on appelle écosystémique, qui met en fait en relation les diversités dites constitutives, donc la diversité génétique et la diversité spécifique, avec le fonctionnement en fait de l'écosystème, c'est-à-dire toutes les interactions qui vont exister au sein de l'écosystème entre les espèces, donc les relations de prédation, de mutualisme, de parasitisme, etc. Et donc à cet égard, les forêts de Bornéo, de Sumatra et d'Indonésie de manière générale sont extrêmement riches en termes de biodiversité. Alors souvent la question, moi en tant que primatologue que j'entends, c'est oui, mais est-ce que cette biodiversité est réellement utile, sous-entendu utile à l'homme? Alors à cette question, il y a plusieurs réponses. Déjà, on peut dire qu'il existe un lien évident entre la biodiversité et la production de biomasse. Ensuite, on s'est aperçu donc que quand la richesse spécifique diminuait, la biomasse diminuait elle aussi de manière régulière. On a aussi évidemment la complémentarité des niches écologiques, les interactions entre les espèces apportent aussi un rôle positif. Et ce que les écologistes et les environnementalistes, les éthologistes de manière générale se sont aperçus, c'est que dans certains cas qui ont déjà été, dans certains cas de déforestation déjà poussés à l'extrême par exemple, l'absence ou la disparition d'une espèce dite clé de voûte va en fait entraîner une chute en cascade de tout l'écosystème et va entraîner en fait une disparition à terme de l'écosystème et du bon fonctionnement de l'écosystème. Alors un exemple, par exemple, vous avez une forêt en Malaisie où toutes les espèces animales ont disparu parce qu'elles ont été chassées. C'est une petite forêt, un petit îlot de forêt situé en plein milieu d'un océan de plantations d'EVA. et vous avez des carpophyllums qui sont des grands arbres sauvages qui existent toujours. Donc la forêt, quand on y entre, elle y paraît primaire, belle, etc. Sauf que si vous regardez au pied de ces carpophyllums, toutes les graines s'amoncellent parce qu'en fait tous les disperseurs, tous les disséminateurs de graines ont disparu et donc à terme les grands arbres vont mourir et il n'y aura pas de relève. Donc la forêt à terme est vouée à disparaître. Donc il y a vraiment une interactivité, une co-adaptation entre les différentes espèces. Ensuite, évidemment, si on prend l'utilité pour l'homme, la biodiversité, oui, est aussi utile pour l'homme, alors à plusieurs égards. Alors déjà, c'est une source évidente de subsistance pour de nombreux peuples forestiers, que ce soit en Asie du Sud-Est, en Afrique ou en Amazonie. C'est aussi une source potentielle, on le voit de plus en plus, pour de nouveaux médicaments. Ça peut aussi être une source de nourriture de réserve face à tous les risques environnementaux qui sont courus par toutes les espèces qu'on a domestiquées, qui ont une faible diversité génétique, et on le voit notamment avec pas mal de problèmes aujourd'hui. Et ensuite, il y a évidemment énormément de plantes ou d'animaux qui sont utilisés de manière industrielle. Alors, on pense évidemment au bois qui est utilisé comme matériau de construction, mais on utilise aussi énormément de fragments d'ADN, soit végétaux, soit animaux, pour tout ce qui est biotechnologie, des biofilms bactériens. Et puis après, on a aussi tout ce qui est parfum, etc., qu'on va puiser dans ces forêts tropicales. Et évidemment, de nombreux animaux sont essentiels à la pollinisation, non seulement au sein des forêts tropicales, mais vont évidemment sortir des forêts tropicales et polliniser les cultures, notamment les insectes. Alors le rôle des forêts tropicales se joue aussi sur le climat mondial. Alors on parle beaucoup des puits de carbone. Alors oui, la forêt tropicale amasse et absorbe une grande quantité de carbone, surtout dans sa phase de croissance, mais c'est une forêt extrêmement dynamique. Donc il y a toujours des arbres en phase de croissance et les chercheurs ont montré que c'est une forêt qui absorbe énormément de carbone. Donc par exemple, la forêt amazonienne à elle seule absorbe entre 0,5 et 2,9 gigatonnes de carbone par an, en sachant que les émissions dues à l'homme sont de l'ordre de 7 à 8 gigatonnes par an, et c'est que la forêt amazonienne. Ensuite, la forêt joue un rôle de climatiseur, donc elle absorbe une grande partie de l'énergie solaire incidente, va rejeter de l'oxygène, puisque les arbres respirent, mais pas seulement, elle va aussi rejeter de l'ozone et de l'hydroxyle, qui vont avoir une action très importante, puisqu'ils détoxifient l'air de leurs polluants. Donc, si cette forêt disparaît, il va y avoir un impact sur le réchauffement climatique qui est évident. Mais la forêt a aussi un rôle essentiel dans le cycle de l'eau. Et pour prendre juste un exemple très parlant, la moitié de l'eau de pluie qui tombe, notamment en forêt amazonienne, mais en forêt d'Afrique centrale ou d'Asie, provient du recyclage effectué par les arbres à travers l'évapotranspiration. Donc les feuilles transpirent, rejettent de l'eau sous forme de vapeur dans l'atmosphère, vapeur qui se transforme en nuages, etc., et qui retourne sous forme de pluie. Puis bon, on peut dire aussi que c'est aussi une source d'inspiration, de rêve. Alors aujourd'hui, les forêts tropicales indonésiennes, si on prend que le cas de l'Indonésie, sont particulièrement malmenées par un arbre qui s'appelle le palmier à huile, de son nom latin Elais guineensis. Alors comme son nom l'indique, c'est un arbre qui est originaire de l'Afrique de l'Ouest. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a été importé en Malaisie en 1870 comme plante d'ornement. Et dès le début du XXe siècle, en 1917, il a commencé à être cultivé de manière plus intensive. Et les années 60 ont vu les premières grandes monocultures de palmiers à huile en Malaisie. Et depuis, tout n'a fait que s'accélérer. Alors pourquoi ce palmier en particulier ? Alors il a été depuis toujours utilisé en Afrique de l'Ouest parce que de ses fruits, on va extraire de l'huile. Et en fait, on extrait plusieurs types d'huile. Alors, c'est un fruit à peu près de cette taille-là, orange. Et de la pulpe, on va extraire une huile, dite l'huile de palme, qui est l'huile classique qu'on peut trouver, par exemple, dans les supermarchés bio, qui est orange, qui est très caractéristique, qui est l'huile utilisée en Afrique de l'Ouest et en Afrique de manière générale, de manière tout à fait traditionnelle. Et ensuite, on utilise aussi la graine à l'intérieur, l'amande qu'on broie, et on obtient ce qu'on appelle l'huile de palmiste. Et le résidu va former, va être pressé et va former des tourteaux. Et aujourd'hui, alors les tourteaux, on les utilise pour l'alimentation du bétail. L'huile de palmiste va entrer dans la composition d'huile de cuisson, de savon, de détergent, de cosmétiques, de peinture, etc. Et l'huile de palme orange va être utilisée énormément, enfin est utilisée en tout cas depuis les années 60 énormément dans tout ce qui est agroalimentaire. Alors dans les barres chocolatées, les margarines, les céréales, les pâtes, les pizzas, les confiseries, dans énormément de produits. Une étude anglaise a montré dans un supermarché qu'un produit sur 10 contient de l'huile de palme, qui est souvent labellisée huile végétale. Alors aujourd'hui, la demande mondiale en huile de palme est de 22,5 millions de tonnes et on pense que les projections sont de 40 millions, quasiment doublées d'ici 2020. Alors l'Indonésie s'est lancée dans la production et la conversion de forêts pour l'huile de palme. Alors en 2002, elle possédait 2,4 millions d'hectares de palmiers à huile, ce qui était déjà énorme, répartis essentiellement sur l'île de Bornéo. Et en 2002, un plan quinquennal a été voté pour convertir 6,8 millions d'hectares supplémentaires. Et depuis, face à la demande notamment de l'Union européenne, sont finalement 16,5 millions d'hectares qui ont été programmés pour répondre à cette demande. Et toute cette conversion des forêts en monoculture d'huile de palme et le commerce de l'huile de palme est soutenue notamment par le FMI et la Banque mondiale, qui poussent l'Indonésie en fait à devenir le premier producteur mondial d'huile de palme devant la Malaisie. Et alors aujourd'hui, tout s'est évidemment accéléré par un nouveau débouché qui est celui des biocarburants ou agrocarburants. Alors il existe en fait deux types d'agrocarburants, deux filières. Alors vous avez la filière éthanol qui correspond en fait au véhicule essence, où ce sont des sucres comme des plantes sucrières comme la betterave et des céréales qui sont transformées en éthanol puis mélangées à de l'essence. Et la filière dite des huiles végétales, ces huiles vont subir ce qu'on appelle une transestérification, et les éthyles méthyliques d'huile végétale qui sont obtenues vont ensuite être mélangées à du gazole pour donner ce qu'on appelle des biodiesels. Et alors il y a un avantage et un inconvénient à ces EMVH. Alors d'abord, l'inconvénient c'est qu'ils sont relativement coûteux à produire, beaucoup plus coûteux que l'éthanol. Ils demandent notamment un très fort apport en énergie, mais l'intérêt c'est qu'on peut les incorporer jusqu'à hauteur de 30% dans le mélange, dans un moteur de voiture diesel, sans avoir à modifier le moteur, d'où vous imaginez bien l'intérêt des constructeurs automobiles et de tous les utilisateurs. Alors, comme Alain Lipietz le disait, donc l'Union européenne a fixé des objectifs d'incorporation des biocarburants à hauteur de 5,75% d'ici 2010 et 10% d'ici 2020. Or, comme le dit la chargée de recherche et la coordinatrice du programme European Biofuel Policy, un problème de surface va se poser pour atteindre en fait ces objectifs européens, et l'importation d'huile de palme pourrait compléter la production européenne, et c'est effectivement ce qui se produit. Alors en mars 2006, en Malaisie, le biofuel B5 Palm Oil, appelé aussi l'Envo Diesel, qui est composé de 5% d'huile de palme et de 95% de diesel, a été lancé en grande pompe sur le marché malais. Et beaucoup de choses ont suivi. Natural Fuel Australia Limited a ouvert une énorme raffinerie à Darwin, dont l'objectif est de produire 800 millions de litres de biodiesel à partir d'huile de palme d'ici 2008, donc l'année prochaine, et est en train de développer d'autres raffineries, dont une 5 fois plus grande en capacité à Singapour. Et elle étudie l'implantation de raffineries également à Houston, aux Pays-Bas et en Malaisie. Et l'huile de palme est déjà fortement utilisée en Europe, alors de manière importante aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Alors pour prendre un exemple aux Pays-Bas, vous avez une compagnie d'électricité qui fonctionne à l'huile de palme qui s'appelle BioxDV et qui projette de construire 4 nouvelles centrales électriques fonctionnant à l'huile de palme, électricité qui ensuite est exportée en partie à plusieurs autres pays européens. Et BioxBV s'investit également dans la production de biodiesel en partenariat en fait avec une entreprise qui s'appelle Unimills, qui est une filiale de la compagnie malaise Golden Hope Plantation, avec un nom bien approprié et bien ironique. Les coûts de fabrication en fait de ces biocarburants sont évidemment plus élevés en Europe que dans les pays émergents. Et donc, l'Union européenne importe de plus en plus d'huile de palme et d'Indonésie notamment, où notamment les coûts de main-d'œuvre sont particulièrement faibles. Aujourd'hui, l'Indonésie accueille grosso modo 10 milliards d'euros d'investissements étrangers dans le secteur de l'huile de palme, en provenance principalement de l'Europe, du Japon et de l'Australie. Et la conséquence, c'est une déforestation en Indonésie fortement accrue et complètement hallucinante pour installer de nouvelles plantations. Et c'est, je dirais, à vue d'œil, vous avez la forêt qui disparaît pour ces plantations de palmiers à huile. Et l'impact est particulièrement dévastateur, parce que pour préparer les sols, les propriétaires des plantations ont recours au brûlis à très grande échelle. Donc, clairement, ils allument des feux qui sont immenses, d'où une quantité de CO2 émise particulièrement importante. Lors des grands feux de forêt en 97-98, 75 à 80% des incendies en fait sont imputables à l'expansion des plantations. Alors évidemment, on a mis tout ça sur le dos d'El Niño parce que c'était plus pratique, mais globalement les feux de forêt qui ont eu lieu encore l'année dernière et l'année d'avant sont au moins pour moitié imputables à l'expansion des plantations. Par ailleurs, évidemment, vous avez une pollution des sols par l'épandage de quantités massives d'engrais et de pesticides qui vont polluer les rivières. Et donc le palmier à huile est cultivé en d'immenses monocultures de milliers d'hectares. Et vous avez évidemment un problème de lessivage des sols tropicaux qui sont par ailleurs très fragiles. Et une fois les plantations de palmiers arrivées à leur terme, parce qu'un palmier ça ne dure pas éternellement, ces sols deviennent stériles et les terres sont désertées et vous avez des immensités avec simplement des squelettes de palmiers à huile et personne ne fait rien de ces terres et de toute façon elles sont devenues stériles donc quasiment rien ne repousse. Et évidemment, vous avez une réduction dramatique de la biodiversité due à l'expansion de ces monocultures et au sein de ces monocultures. Alors, pour prendre un cas précis, donc moi je travaille plus particulièrement sur les orang-outans qui comptent parmi les premières victimes de cette expansion du palmier à huile. L'habitat de l'orang-outan a réduit grosso modo de 90% ces dernières années, dont la moitié environ est imputable aux palmiers à huile. Et en 15 ans, la population d'orang-outan a chuté de quasiment 50%. Il y a eu des estimations faites par les chercheurs qui travaillent sur place. On estime à 5000 orang-outans qui disparaissent chaque année, tués à l'intérieur des plantations, où ils viennent en fait chercher à manger puisqu'ils n'ont plus de forêt. Et les plus jeunes sont souvent capturés pour être vendus comme animaux de compagnie à l'intérieur d'un trafic qui est devenu très lucratif. Et à Sumatra en particulier, la situation est particulièrement critique. En fait, vous avez deux espèces d'orang-outans, pardon, l'orang-outan de Bornéo et l'orang-outan de Sumatra. Et donc, c'est une espèce parmi d'autres, évidemment. On peut parler de plein d'autres espèces qui disparaissent. Alors, en conclusion, le palmier à huile a un impact sur l'écologie des sols, sur le climat local et mondial, une réduction de la biodiversité, mais il ne faut surtout pas oublier aussi les problèmes sociaux. Les populations locales sont chassées de leurs terres, la main-d'œuvre est exploitée, on parle d'esclavage, et de nombreux cas de violence, d'arrestation, de torture, voire de meurtre. Donc, en conclusion, les biocarburants de manière générale, parce que c'est un cas particulier, font peser des menaces sur la conservation des forêts tropicales, sur le climat, sur la sécurité alimentaire, liées à l'accroissement justement de ces monocultures intensives dans des zones vulnérables et fragiles. Et on peut se poser cette question, est-ce que c'est vraiment le prix qu'on veut payer pour, soi-disant, ralentir le réchauffement climatique? Merci.
Oui, on voudrait, s'il vous plaît, que vous nous baissiez la lumière pour obtenir une ambiance forêt tropicale. Merci infiniment, Emmanuel, d'avoir réussi à dire en si peu de temps autant de choses. Alors, pour ne pas trop empiéter sur le temps de parole des intervenants, je voudrais vous signaler que Sinople a réalisé une petite étude sur la manière dont les Verts des autres pays d'Europe réagissent à la directive. Alors, vous verrez que selon les situations, selon les pays, certains pays comme l'Espagne et l'Irlande en attendent quelque chose en termes de création d'emplois. Vous verrez que d'autres pays comme la Norvège, la Suède ou la Finlande, qui ont une tradition d'utilisation du bois énergie, sont beaucoup plus réservés dans la mesure où ça, les agrocarburants empiètent sur les terres cultivables et menacent la souveraineté alimentaire qu'ils essayent de s'accorder. Et puis donc deux pays ont particulièrement expérimenté déjà les importations d'huile de palme, notamment c'est le cas des Pays-Bas, et donc je vais tout de suite donner la parole à Wim qui pourra nous dire un petit peu comment les Verts des Pays-Bas ont pu réagir à la situation.
Merci beaucoup. Premièrement, je voudrais assurer que les compagnies d'électricité en néerlandais ne brûlent pas d'huile de palme depuis le 1er janvier. Après beaucoup de protestations et émotions de la part des mouvements écologiques et les partis verts, on a décidé d'arrêter afin que une commission Cramer qui a fait stipuler des critères, afin cette commission va contrôler et vérifier si les critères sont assez lourds ou non. Et par hasard, Madame Cramer, le qui a présidé cette commission, est maintenant le nouvel ministre d'Environnement aux Pays-Bas. Je m'excuse pour mon français, mais aux Pays-Bas, on utilise le mot biocarburant. Mais c'est un terme général ou générique, c'est un conteneur. Je divise trois types de biocarburants. Le premier, c'est la biomasse, c'est-à-dire c'est la co-combustion des déchets agricoles dans une centrale de charbon classique, s'y inclut l'huile de palme. Alors, c'est de bois, des morceaux de bois, mais aussi les noix de coco et de cacao et les fumiers des poules. Il y a une centrale d'électricité qui brûle, qui produit de l'électricité avec le brûle de fumier des poules. C'est le biomasse. Seconde, c'est le biodiesel. Et c'est qu'on nous appelons les biocarburants de la première génération. Le biodiesel est dérivé de l'huile de colza, de céréales, de betteraves sucrières, maïs, soda. Avec une réduction des CO2 émissions de 50%. Et le troisième type de biocarburant est le bioéthanol. Le biocarburant de la deuxième génération, un processus très complexe, aux bases de lignocellulose, qui produit d'éthanol. Par ce processus, par la, je ne sais pas le mot français, la, par le traitement de végétaux de bois, de déchets de la forêt, de l'herbe, de chanvre, cellulose, papier, paille, peuplier, roseau. Alors, ce ne sont pas des denrées céréales. Ce sont des, comment on s'appelle, des déchets. Avec une réduction de CO2 de 60 à 80% et une réduction de la poussière fine. Alors, c'est au, notre pays aussi un débat très émotionnant. Les Verts de gauche, Hollande, sont in favor, sont en faveur des biocarburants de la deuxième génération et si non inclus huile de palme. Mais les biocarburants doivent satisfaire à quelques exigences. La réduction de CO2 et de la poussière doit être significative, disons plus de 60%. La production se fait à la mode durable. La production se fait à l'échelle régionale afin d'éviter des transports et pour créer d'emplois locaux. Les matières primaires sont des déchets organiques mais pas des denrées alimentaires comme céréales, maïs, soja ou huile de palme. Éviter une énorme concurrence entre manger ou conduire. C'est le mot, c'est un terme qui va tomber plus souvent. Un exemple pour défendre cette position. À ce moment, aux États-Unis, un sixième de la récolte de maïs est destiné à des raffineries nouvelles d'éthanol. Mais le total ne couvrirait que 15% de leurs besoins en un sens pour leur voiture. Pardon? Non. La conséquence, le prix de maïs est augmenté énormément. Par conséquent, les Mexicains ne peuvent pas se permettre les tortillas. Et une dernière condition, il devra un système de certificats concernant l'origine, les émissions de CO2 et de la poussière, et concernant la production durable. Alors, le gouvernement néerlandais a l'objectif, a l'intention de devenir le leader du marché en 1915 par rapport à la deuxième génération de biocarburants. L'essence de diesel doit être remplacée par les biocarburants de la deuxième génération. Les avantages doivent être montrés clairement, c'est-à-dire la réduction des émissions CO2 diminuera significativement et la production passera à un mode durable et à une échelle régionale avec des critères très lourds. Merci.
Alors, avant de passer aux intervenants qui parleront des alternatives, on va passer un tout petit documentaire sur Bedzed, qui est ce quartier de Londres qui vit en autonomie énergétique.
Les recherches ont montré que nous consommons plus de ressources que la planète ne peut nous en offrir. Par exemple, si chaque habitant du monde avait le même mode de vie qu'un Européen, nous aurions besoin, en ressources, de l'équivalent de 3 planètes Terre. L'idée que nous souhaitons faire passer avec le concept « vivre avec une planète » est qu'il nous faut vivre de façon durable avec les ressources de notre seule planète.
Le Royaume-Uni est un des pays insulaires les plus peuplés dans le monde. Or, actuellement, nous dépendons entièrement des ressources fossiles. Dans la mer du Nord, nous disposons de pétrole et de gaz, mais ces ressources seront entièrement épuisées d'ici 10 ans. Aussi, nous devons préparer notre société à vivre à l'aide des seules énergies renouvelables disponibles sur notre territoire. En raison du coût de la construction, il existe une véritable pénurie de logements pour les personnes qui ne disposent pas de revenus élevés. Le gouvernement estime qu'il faudrait construire 4 millions de logements d'ici 2016 dans le sud-est de l'Angleterre. L'habitat traditionnel, très étendu, requiert de vastes superficies. La question est de savoir comment construire assez de logements avec une densité de population plus élevée, principalement sur des terrains délaissés tels que des friches industrielles, afin de ne pas empiéter sur les espaces verts et les terrains agricoles. En même temps, nous souhaitons offrir une haute qualité de vie et un aménagement agréable tout en réduisant la consommation d'énergie. Il faut pour cela couvrir nos besoins par le recours aux énergies renouvelables. C'est en réponse aux difficultés rencontrées que le projet Bedzed a vu le jour à Beddington, dans la banlieue sud de Londres. Sont à l'origine du projet la fondation Peabody, qui s'occupe du logement social, le bureau d'architecte Bill Dunster et l'association environnementale Byho Regional.
Bedzed signifie Beddington Développement sans énergie fossile. Ce à quoi nous aspirons vraiment, c'est de produire notre énergie à partir de sources d'énergie renouvelables. Il ne s'agit pas de ne pas consommer d'énergie, nous ne pourrions pas nous en passer.
Le quartier comprend 80 logements pour 250 résidents. Une centaine de personnes occupent les bureaux. Une partie des logements a été vendue. Une autre est en location à des prix abordables. Cela a permis d'attirer à la fois des personnes à revenus modestes et des ménages plus aisés. Les parties habitées sont orientées plein sud. Dans les zones situées à l'ombre, derrière les appartements, nous avons installé les espaces de travail. Les jardins sont aménagés sur les toits des bureaux. C'est une configuration assez novatrice. Chaque partie externe des bâtiments sert à quelque chose pour quelqu'un. Vous voyez, ça ne ressemble pas aux constructions habituelles. Les appartements et les bureaux sont très bien ventilés grâce à un système de circulation naturelle de l'air.
Nous avons accordé une grande importance au choix des matériaux de construction et à leur approvisionnement. Nous avons essayé de nous approvisionner dans un rayon de 50 km. Cela a permis de soutenir l'économie locale. Nous avons utilisé des matériaux issus de déconstruction, des matériaux recyclés et des matériaux écologiques. Nous sommes presque autosuffisants en énergie. L'énergie est produite par une centrale alimentée en plaquettes de bois, en fait des résidus de coupe qui auraient été perdus. La centrale produit aussi de l'eau chaude. Nous sommes reliés au réseau national d'électricité. Ainsi, en cas d'urgence ou de panne, nous disposons d'une source d'approvisionnement.
Des murs très épais ainsi que des triples vitrages assurent une très bonne isolation des bâtiments. Les dépenses en chauffage sont très faibles, de l'ordre de 10% de celles d'une construction classique. Les habitants sont encouragés à économiser l'énergie ainsi que l'eau. Les compteurs, placés dans la cuisine, permettent de suivre facilement les consommations. Les résidents sont invités à trier leurs déchets en quatre grandes catégories. Des bacs à compartiments sont placés à cet effet dans la cuisine. À l'extérieur, des conteneurs reçoivent les déchets recyclables.
Voici une salle de bain type d'un appartement de Bed Z. Elle est équipée d'une machine à laver le linge qui consomme deux fois moins d'eau qu'une machine classique. Il y a deux commandes pour les toilettes, pour déverser soit 2 litres, soit 4 litres. L'eau du robinet s'écoule sous la forme d'un jet diffus, ce qui réduit la consommation. L'eau de la douche est mélangée à de l'air. On a la sensation d'un jet sous pression, mais la consommation en eau est moindre.
L'eau de pluie est collectée et une partie des eaux usées est traitée sur place. Le système composé de plantes qui absorbent les nutriments est encore expérimental. À terme, près de la moitié des eaux usées pourront être recyclées et réutilisées sur place. Le quartier est très bien desservi par les transports en commun, trains, tramways et autobus. De plus, les résidents peuvent recharger gratuitement des voitures électriques à des bornes alimentées par des panneaux photovoltaïques. Mais en pratique, le parc est équipé seulement d'une voiture et d'une moto. Les véhicules électriques actuellement ne sont pas commercialisés en Grande-Bretagne. J'ai dû importer ma voiture spécialement de France. Cela a été très difficile. Bien entendu, si ces modèles ne sont pas proposés à la vente, on ne peut pas espérer que les gens en achètent. Ça sera tout à fait différent lorsque le carburant deviendra rare et cher.
La construction a coûté 30% de plus qu'une construction traditionnelle. C'est normal, il s'agit d'un prototype pour lequel il a fallu financer la conception et la recherche. On devrait pouvoir construire ailleurs des bâtiments semblables, sans surcoût. Si on veut vraiment bénéficier de toutes les améliorations possibles, le surcoût sera de 1 ou 2%. En ce qui concerne les frais de fonctionnement, on est en train de faire des enquêtes. Il semble que les économies sont de l'ordre de 25%.
L'empreinte écologique de Bed Z est deux fois moindre que celle d'un quartier traditionnel. Cela est encourageant, mais la tâche à poursuivre est considérable. La Grande-Bretagne renouvelle à peu près 1% de son parc immobilier chaque année. Si nous adoptions les techniques expérimentées à Bed Z pour tous les nouveaux projets de construction, nous devrions nous affranchir des ressources fossiles avant le début du prochain siècle. Cela prendra du temps, mais c'est un défi exaltant à relever.
Alors, on va maintenant donner la parole à Patrick Sadone, qui va nous donner un point de vue d'agriculteur sur la question. Peut-être tu...
Pardon. Enfin, je suis pas seulement, je suis agriculteur, c'est mon métier, mais je suis surtout ingénieur agronome formation. Je m'intéresse aux questions d'énergie depuis fort longtemps. Et là, je vais vous parler en fait des bilans des agrocarburants, parce que. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que pourquoi est-ce qu'on s'est mis à faire des agrocarburants? Il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et un deuxième objectif, qui est l'économie du carbone fossile. Avec subsidiairement la création de nouveaux débouchés pour les produits agricoles. Et puis, bon, une relocalisation des emplois dans le secteur de l'énergie. Et l'amélioration de notre autonomie en protéines végétales, notamment pour l'alimentation animale. Bon, c'est quand même le premier objectif qui est fondateur, hein, puisque les directives européennes découlent de la signature par l'Europe du protocole de Kyoto, et c'est ça qui a enclenché la mise en route de ces dispositifs biocarburants par le fait d'un glissement sémantique qui est quand même tout à fait remarquable, puisque les objectifs des accords de Kyoto, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, Et on est passé, avec les plans biocarburants qui consomment l'essentiel des ressources qui sont consacrées à cet objectif, un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre par le secteur des transports routiers. Bon, ce qui est quand même limité un petit peu la question, même si, effectivement, le secteur des transports routiers est un des principaux postes, c'est le deuxième, et il est en croissance soutenue tous les ans. Mais enfin, l'objectif du protocole de Kyoto, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bon. Le deuxième objectif, il faut quand même pas perdre de vue que l'humanité ne verra jamais le bout du carbone fossile. Hein. Si on sort tout le pétrole, le charbon, le gaz naturel qu'on a sous nos pieds, il y aura à peu près 2000 ppm de CO2 dans l'atmosphère, donc il fera à peu près 70 degrés à la surface de la planète, donc la question sera réglée. Hein. Le problème, c'est l'émission des gaz à effet de serre. C'est ça qui est fondamental. Bon, évidemment, dans l'opinion du public, le public est beaucoup plus sensible au problème de la raréfaction de l'énergie et surtout au problème de l'augmentation de son coût, parce que ce que les gens regardent, c'est ce qu'ils doivent dépenser. Hein, mais bon, le problème, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors donc, il y a une étude, hein, contrairement aux autres problématiques contre lesquelles on peut se battre, par exemple les OGM, là, c'est quand même différent parce que on a une étude qui est l'alibi scientifique des tenants de ces filières en Europe. C'est l'étude ADEME-DIREM 2002, réalisée par le bureau d'études Pricewaterhouse. Bon, c'est cette étude qui est l'unique alibi, je vous le répète, vous lisez n'importe quel document qui traite de ces questions, on vous ressort l'étude ADEME-DIREM 2002. Bon, c'est un pavé qui est assez gros, mais il suffit de savoir lire le français, prendre le temps de lire cette étude, pour s'apercevoir que cette étude est une imposture. C'est sur cette imposture qu'a été fondée toute la politique de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vais vous en faire la démonstration en un quart d'heure. Je vais m'appuyer sur le schéma de production de l'éthanol de blé. Bon, qui est quand même, bon, c'est pas le principal, la plus grosse production d'agrocarburants en France, c'est l'ester méthylique d'huile de colza, hein, appelé communément diester. Mais disons que les malversations qui ont été mises en œuvre pour arriver au bilan qui sont publiés sont plus frappantes dans le cas de l'éthanol de blé. Alors donc, le fil est assez long, non, je crois pas. Bon, ben donc je vais vous expliquer ça de ma place. En fait, c'est le principe de production de l'éthanol de blé. Donc on part de la culture du blé, hein, on fait pousser du blé dans les champs. Donc on produit du blé et de la paille. Ensuite, bon, ben la paille, pour l'instant, elle est assez peu, enfin, elle est valorisée. Soit elle est restituée au sol pour la plupart du temps, soit en l'état après broyage, soit sous forme de fumier s'il y a suffisamment d'animaux dans les zones de production pour que la paille soit utilisée en litière. Bon, ensuite, donc on transporte le blé à l'usine, bon, après une étape à la coopérative où éventuellement le blé peut être séché, et puis donc ça arrive à l'usine d'éthanol. Alors il y a une première phase qui consiste à... Bon, ça je vous décris le procédé dit Tereos. Hein. Tereos, c'est un groupe sucrier qui s'est orienté vers la production d'éthanol de blé depuis déjà quelques années et qui fait figure de pilote un peu en Europe. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très simple, hein, on fait au plus simple. C'est-à-dire qu'on écrase le blé pour faire une farine complète. Et puis ensuite, on dilue cette farine dans l'eau. Et bon, le blé contient à peu près 80% d'amidon. Et puis le restant, c'est des protéines, c'est du son, c'est des sels minéraux. Bon. Donc la première phase consiste à hydrolyser l'amidon pour obtenir du glucose. L'amidon, c'est une grosse molécule composée de plein de molécules de glucose les unes après les autres. Donc on rajoute de l'eau et de l'acide pour obtenir l'hydrolyse de l'amidon en glucose. Et à l'issue de cette opération, on obtient donc une espèce de soupe sucrée, quoi. La deuxième étape, c'est la fermentation. Donc on rajoute de la soude quand même pour neutraliser un petit peu l'acide, la solution qui est acide, puisqu'on a rajouté de l'acide sulfurique pour faire l'hydrolyse. On rajoute des levures, hein, et puis on fait la fermentation. C'est une réaction qui est vieille comme l'homme pratiquement. Hein. Et donc cette fermentation conduit à l'obtention d'un vin qui contient à peu près 11% d'alcool. Donc il y a dégagement d'une masse importante de gaz carbonique, hein, puisqu'il y a à peu près autant de gaz carbonique produit que d'éthanol produit. Hein. Bon, et puis donc à l'issue de cette opération, on obtient un vin qui est à 11% d'alcool, bon, qui n'est pas suffisamment concentré pour faire tourner les voitures. Donc il faut faire une distillation. comme on fait dans les campagnes, les bouilleux, là, moi je viens de la Seine, la Normandie, là, donc on distille l'éthanol. Et donc on obtient, alors c'est l'opération qui est énergétiquement la plus coûteuse, puisque l'éthanol et l'eau présentent une forte affinité, ça consomme énormément d'énergie pour les séparer. Et donc on obtient, à l'issue de cette opération, donc pas tout à fait encore l'éthanol anhydre, on obtient ce qu'on appelle des flegmes, qui contiennent 93,7%, c'est le maximum qu'on puisse faire, pour des raisons techniques, et puis, enfin physiques plutôt, et puis des vinasses de distillation, alors qui contiennent 1,3 kg, pour 1 kg d'éthanol produit, on a 1,3 kg de matière sèche de vinasse. Hein, donc c'est le son, les protéines, les sels minéraux, l'amidon qui n'a pas été hydrolysé, le glucose qui n'a pas été fermenté, et l'alcool, l'éthanol qui n'a pas été distillé. Bon, et après, il y a une opération qui consiste à déshydrater complètement l'éthanol, parce que pour le mettre dans les moteurs, il faut qu'il soit au moins 99,3% de pureté. Alors voilà, donc on a toutes ces étapes-là, et puis pour chaque étape correspond des coûts énergétiques et des coûts effet de serre. Le problème, c'est qu'il y a des coproduits. Donc le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on impute les différents coûts aux coproduits. Alors la méthode qui a été utilisée dans l'étude ADEME-DIREM, c'est la méthode dite de l'imputation massique, c'est-à-dire qu'on impute les coûts au prorata de la masse de chacun des coproduits dans le mélange final. Donc là, le mélange final, c'est quoi? Enfin, c'est pas le mélange, puisque ce sont séparés. Vous avez 1 kg d'éthanol anhydre et 1,3 kg de matière sèche de vinasse. Donc on a fait supporter à l'éthanol 43% des coûts de l'opération, y compris les coûts de distillation, hein, qui est le poste le plus élevé. Okay. Bon, ça, il suffit de lire le rapport pour s'apercevoir que c'est comme ça que ça a été fait. Hein. J'ai rien inventé, j'ai lu le rapport. Bon, l'opération de distillation consomme 15 mégajoules d'énergie pour 1 kg d'éthanol. L'éthanol, quand vous le brûlez, vous récupérez 26,8 mégajoules d'énergie. Vous en avez brûlé 15 pour la distillation. Alors, les vinasses ne participent pas à la distillation. Hein. Ce qui est distillé, c'est l'éthanol. Les vinasses, elles percolent à travers la cône de distillation, vous les retrouvez en pied de colonne. Il n'y a aucune raison de faire supporter les coûts de distillation aux vinasses. De même, la fermentation. C'est le glucose qui est fermenté. C'est pas le son, c'est pas les protéines, c'est pas les sels minéraux. Donc, cette idée d'imputer 57% des coûts aux vinasses, c'est une escroquerie intellectuelle. Bon, je l'ai vu écrit nulle part. À part moi, les documents que j'écris tous les jours, c'est une escroquerie. Bon, je l'ai vu écrit nulle part. L'étude 2002, elle est sortie en décembre 2002. Hein? Ça fait déjà 5 ans, ça fait 5 ans que le lobby de l'éthanol se gargarise avec cette étude. En face, il n'y a personne qui a dit que c'était une escroquerie. Bon, ça, c'est le cas de l'éthanol de blé. Bon, je vous passe les détails, hein, parce qu'après, ils ont été dire, bah oui, le CO2 fermentaire, on le récupère pour faire des boissons gazeuses. Allez, hop, on va foutre une partie des coûts sur le CO2 fermentaire. L'usine Théros de Lillebonne va produire 200 000 tonnes d'éthanol, à peu près 200 000 tonnes de CO2. 5 grammes par litre d'eau gazeuse. Ça fait 600 litres d'eau gazeuse pour chacun des 60 millions de consommateurs français. Bon, vous pouvez multiplier le chiffre par 5 parce que toutes les usines d'éthanol ont prévu de faire ça, évidemment. Ça fait donc 3 mètres cubes. Alors, je sais pas s'ils ont prévu de s'arranger avec je sais pas qui, la Lyonnaise des Eaux, pour distribuer ça au robinet, mais bon, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Hein. Bon, voilà. Alors, voilà le travail. Alors, l'éthanol de betterave, l'étude ADEME-DIREM arrive exactement à la deuxième décimale près au même résultat. Efficacité énergétique de 2,05. Donc, ils disent l'éthanol restitue un peu plus de deux fois l'énergie primaire fossile qu'on a mis en œuvre pour le produire. Bon, vous ouvrez n'importe quel bouquin, vous retrouvez ce résultat-là. Bon, les émissions de la gaz à effet de serre, c'est exactement le même mode de calcul qui a été appliqué. Exactement. Alors, pour le cas de l'éthanol de betterave, bon, ils étaient vraiment emmerdés, les betteraviers. Parce que le problème, c'est que dans la betterave, on fermente un jus sucré. C'est-à-dire qu'on a les betteraves, qu'on les crabouille, on fait passer de l'eau dessus à contre-courant, l'eau se charge en sucre, et vous fermentez cette affaire-là. Donc dans les vinasses de distillation de l'éthanol de betterave, il n'y a rien pratiquement. Il n'y a pas de matière sèche, puisque vous avez fermenté un jus sucré. Donc ils ne peuvent pas faire d'imputation massique sur les coûts de distillation, puisqu'il n'y a rien dans les vinasses. Bon, puis par ailleurs, ils ont un gros problème, les betteraviers, c'est que les betteraves, ça ne se conserve pas. Hein, vous arrachez ça, puis quand c'est au bout du champ, il ne faut pas attendre de trop pour les livrer à la laiterie, à la sucrerie, excusez-moi. Donc, il faut traiter ça assez vite. La sucrerie, elle dure 3 mois. L'activité de la sucrerie, c'est 3 mois. Donc, vous ne pouvez pas amortir une distillerie sur 3 mois. Bon, au Brésil, la campagne de récolte de la canne à sucre dure 6 mois. Donc, c'est possible d'amortir le fonctionnement de la distillerie sur 6 mois. Bon, mais là, ça a un problème. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les betteraviers? Eh ben, il faut qu'ils stockent leur substrat de fermentation. Alors, si pendant la campagne betteravière, ils peuvent fermenter des jus de diffusion. Bon, ça, c'est à peu près rationnel. On aurait des bilans à peu près équivalents au blé. Mais seulement, les jus de diffusion contiennent que 11% de sucre. S'il faut stocker ça pour toute la campagne, ça fait des volumes de stockage énormes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils concentrent. Ils chauffent pour faire des sirops qui contiennent 60-65% de sucre. Puis après, au fur et à mesure des besoins, on redilue les sirops pour arriver à une concentration de substrat de fermentation qui soit compatible avec le développement des levures. Donc, vous avez des coûts de concentration qui plombent complètement le bilan. Et pourtant, ils arrivent au même résultat que le blé. Pourquoi? Ben, il suffit de regarder à nouveau le rapport, de regarder les tableaux. On s'aperçoit que le coût de distillation de l'éthanol de betterave, par miracle, ben, il est 4 fois moins élevé que le coût de distillation de l'éthanol de blé, alors que c'est la même opération. J'ai jamais trouvé personne qui m'a expliqué pourquoi. Pourtant, j'ai rencontré au sein de l'agriculture les deux principaux responsables du bureau d'études PricewaterhouseCoopers, qui a été chargé de l'étude, moyennant finance évidemment. Bon, ben, ils sont restés secs, hein. Ils ne savaient pas, ils ont palpé, je ne sais pas, 500 000 euros pour faire ce boulot-là, ils ne savaient pas. Voilà. Bon, ben, les tableaux, écoutez, on va peut-être passer assez vite là-dessus. La bonne méthode, il faut quand même arriver à obtenir les bilans de ces affaires-là, parce que sinon on discute dans le vide. Hein. Donc en fait, la méthode, elle a été proposée depuis 1995 par des chercheurs américains, parce que les Américains savent qu'à un moment qu'ils en font. En fait, il faut regarder. Bon, c'est vrai que le coproduit, on l'utilise. Hein, on l'utilise pour l'alimentation animale. Donc, effectivement, il faut le comptabiliser. Parce que si on le comptabilise pas, bon, c'est ce que fait Pimentel aux États-Unis. C'est ce que faisait Jean Covici avant que je lui dise que c'est pas ça qu'il fallait faire. Il comptabilise pas du tout le coproduit. Alors, du coup, forcément, ils arrivent à des bilans archi nuls puisque c'est l'éthanol qui prend tout sur la figure. Et donc, les autres en face, ils ont beau jeu. Ah, bah oui, mais vous prenez pas en compte le coproduit. Donc, forcément. En fait, le coproduit est utilisé en alimentation animale. Il remplace du tourteau de soja, du pois, un aliment du bétail qu'on n'a pas à produire ni à transporter. Donc la bonne méthode, enfin, ce que je pensais être la bonne méthode jusqu'à il y a à peu près un mois, c'est de dire, bon ben, on regarde l'économie qu'on fait en utilisant le coproduit à la place d'un autre aliment qu'on n'a pas à produire. Et du coup, on efface, c'est la méthode dite de substitution. Et donc, bon, ben, si on fait ces calculs à partir de cette méthode de substitution, ben, on arrive aux résultats qui sont là. Éthanol de blé, efficacité énergétique 1,35, c'est-à-dire quand vous investissez une unité d'énergie fossile primaire, vous en récupérez 1,35 sous forme d'éthanol. Bon, ça, c'est l'éthanol de blé utilisé en mélange dans l'essence. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait. Aujourd'hui, on fait de l'ETBE. Hein, 90% de l'éthanol incorporé dans l'essence en France, c'est de l'ETBE, éthyl tertiobutyléther, dérivé obtenu à partir d'une réaction entre l'éthanol et l'isobutène. L'isobutène, c'est un produit dont les pétroliers ont le monopole de la fabrication. Bon, si on rajoute au coût de production de l'éthanol le coût de la synthèse de l'ETBE à partir de l'isobutène et de l'éthanol, plus le coût de transport éventuellement de l'éthanol jusqu'à l'unité de production d'isobutène, c'est pas un copeau. Hein. L'usine Tereos de Lillebonne, c'est à côté de chez moi, à Vallée de Seine, près de Rouen, l'éthanol, il s'en va à Fos-sur-Mer. Hein? Bon, pour faire de l'ETBE. Parce que, ben, y a une grosse usine qui fait de l'ETBE là-bas. Bon, et ben, si on regarde le bilan effet de serre et le bilan énergétique de l'ETBE, on est en dessous de 1. Hein. L'ETBE, c'est pas une énergie renouvelable. Son efficacité énergétique est inférieure à 1. Et l'économie en termes d'effet de serre, ben, on arrive péniblement à 12% par rapport à l'essence. Bon, ça coûte une fortune. Bon, je vais pas rentrer dans l'histoire de défiscalisation, parce que sinon on va pas en sortir. J'ai qu'un quart d'heure, il me faudrait 3 heures pour faire le tour de la question. Mais bon, le coût de la tonne de CO2 économisé grâce à l'utilisation de l'ETBE en remplacement de l'essence, c'est 500 euros. 520 euros pour être précis. 520 euros la tonne de CO2 économisée. Je ne sais pas si vous êtes courant des tarifs. Hein. On est à 20 ou 30, je ne sais pas. Bon, enfin, c'est faramineux. D'utiliser de la biomasse à des fins thermiques dans une chaudière à bois. Bon, ben, le barème de la subvention publique, c'est 40 euros, 60 euros la tonne de CO2 économisée. On est 10 fois plus élevé. 10 fois plus élevé. Bon, on va passer à la suivante. Production par hectare. Bon, bah ça, évidemment, le problème, c'est le problème vraiment limitant des agrocarburants, c'est la surface. Hein. Surface agricole, on commence à manquer de surface agricole pour nourrir les gens. Je regrette. Tous les ans, la population mondiale augmente, les surfaces agricoles diminuent, parce que rien qu'en Seine-Maritime, on permet 400 hectares par an, parce que on fait des ronds-points, on fait des autissements, on fait des zones artisanales, machin. La Chine, 25 millions de personnes quittent les campagnes dans les Chines, en Chine tous les ans. Ça fait, les villes s'agrandissent. Les zones cultivées en Chine, c'est surtout autour des villes dans les vallées. La Chine, elle n'a plus que 111 millions d'hectares de terre cultivable. Il ne reste presque plus rien. Bon, en plus, les Chinois, les Indiens, tant mieux pour eux, il y a une certaine, il y a des gens qui accèdent à des niveaux de vie plus élevés. Ils se mettent à manger de la viande. Ben, pour nourrir quelqu'un avec de la viande par rapport à quelqu'un qui mangeait du riz, ben, il faut plus de surface. Bon, les rendements baissent. Hein. En France, ça fait 3 ans de suite que le rendement en blé moyen a baissé. Parce qu'il y a de la sécheresse, il y a trop d'eau, il y a ceci, il y a cela. Ça baisse. En Australie, catastrophe. En Roumanie, catastrophe. Ça baisse. Bon. Donc, il y a plus... Bon, il y a un problème. Donc, ce qui est important à prendre en compte, c'est la production nette par hectare. Bon, ben... Évidemment, on dit l'éthanol, regardez, c'est formidable, éthanol de betterave. 5780 kilos d'éthanol par hectare. Merveilleux. Mais oui, mais seulement, une fois qu'on a déduit les coûts, coûts énergétiques, ben on n'arrive plus qu'à 0,73 step hectare. Bon. Et le problème, c'est que je vous dis que la méthode de substitution telle que je vous l'ai décrite, maintenant, je trouve qu'elle n'est pas satisfaisante, parce que justement, elle ne prend pas en compte correctement le problème de la surface. Bon, un hectare de blé, vous faites un hectare de blé éthanol, vous récupérez à peu près l'équivalent d'un hectare de soja ou de pois. Donc, le bilan est à peu près correct. Par contre, un hectare de betterave éthanol, vous récupérez en produit des pulpes qui remplacent qu'un demi-hectare de blé. Donc, si vous faites un hectare de betterave éthanol, ben, il vous manque un demi-hectare. Bon, vous allez le chercher où, cet hectare-là? Bon, le colza, c'est pareil, le diester, il manque un tiers d'hectare. Parce qu'on a des coproduits, mais il manque un tiers d'hectare. Donc on va le chercher où? Ben, on va le chercher en Malaisie pour compenser le parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Hein, le diester de colza, il est en train de bouffer les surfaces destinées auparavant au colza alimentaire. Donc le déficit structurel de l'Europe en matière grasse végétale se creuse avec ces histoires de diester. Ça veut dire qu'on est en train d'importer du colza, de l'huile de palme pour boucher le trou. Ça veut dire que chaque litre d'huile qu'on utilise pour faire du diester, même de l'huile brute, eh ben, c'est des palmiers en huile qui sont plantés à l'autre bout du monde. Là, malheureusement, c'est incontournable. Donc maintenant, la bonne méthode que moi je considère qu'il faut faire pour faire les bilans, il faut faire un bilan à surface équivalente et à production alimentaire équivalente. Bon, c'est un peu compliqué. Bon, je travaille beaucoup là-dessus parce qu'il se trouve que, grâce à l'action de certaines associations, l'ADEME a été obligée de remettre son étude sur la table. Donc il y a un appel d'offres qui a été lancé le 20 juillet qui sera clos le 30 août. J'ai plus que quelques jours pour boucler mon appel d'offres. J'ai fait un appel du pied à Monsieur Couturier, je ne sais pas ce qu'il a décidé, il va me le dire tout à l'heure. Bon, l'ADEME a remis son étude sur le chantier. Donc elle lance un appel d'offres où mon association EDEN, petite association qui existe depuis 2 ans, va candidater sans avoir tellement de succès. Bon, ce que je sais, c'est que Pricewaterhouse, ils ne se candidateront pas parce qu'ils sont grillés. Bon, mais voilà. Donc, voilà, bon, c'est quand même important. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment simple, cette affaire de biocarburant. Il y a une étude qui existe sur laquelle tout le monde s'appuie. Il suffit de lire cette étude pour s'apercevoir qu'elle est foireuse. Ben, dénoncer le fait que cette étude est foireuse. S'il y a un communiqué de presse qui sort avec la signature d'Alain Lipiès, Yves Cochet et tout ce monde-là en disant « L'étude ADEME d'IREM 2002, unique alibi scientifique détonnant des agrocarburants, est une imposture », bon, ben ça aura du poids. Et nous serons très attentifs à ce que la révision de l'étude se fasse par un bureau d'études indépendant, que les conventions qui vont être tenues, on sera très attentifs à ce que ça soit pas fantaisiste. L'ADEME saura qu'elle peut pas faire les mêmes conneries qu'elle a fait en 2002. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Patrick. Alors c'est le tour maintenant de Christian Couturier de nous présenter des processus de biomasse énergie un petit peu plus efficaces et rentables que les agrocarburants.
Oui, donc bonjour, je me présente rapidement, donc Christian Couturier, je suis salarié hein, dans une association qui s'appelle Solagro, qui existe depuis 1981, qui est basée à Toulouse, qui travaille sur les questions d'énergie, d'agriculture et d'environnement. L'association comporte environ 150 adhérents et 17 salariés, donc ils sont principalement des ingénieurs, énergéticiens et agronomes, donc moi je suis ingénieur énergéticien, je m'occupe du pôle énergie, biomasse, déchets. Et il y a un autre pôle qui travaille plus spécifiquement sur les questions d'agro-environnement. Voilà, donc pôle énergie, biomasse, déchets, on travaille principalement sur les utilisations énergétiques de la biomasse et plus spécifiquement sur le biogaz et le bois. Et je suis membre par ailleurs de la compagnie des négawatts, donc vous connaissez la démarche négawatt, j'imagine, donc qui repose sur les trois principes qui sont la sobriété, l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Donc moi j'ai pris en charge la partie biomasse de ces scénarios, donc petit rappel hein, pour ceux qui n'ont pas tous les chiffres en tête. Dans le scénario négawatt à l'horizon 2050, donc c'est un graphique qui n'est pas tout à fait actualisé, c'est les données 2000, enfin le scénario 2003 qui a été réactualisé depuis, mais ça ressemble à peu près à la même chose. Hein. Donc dans le scénario négawatt, on dit qu'avec les technologies qui existent aujourd'hui et les meilleures pratiques qui existent aujourd'hui, donc sans faire de pari sociétal ou technologique, hein, en généralisant donc ces bonnes pratiques et ces bonnes technologies, à l'horizon 2050, on peut diviser par 2 la consommation totale d'énergie. Et on peut diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre sans passer par l'uranium. Et donc, en matière d'énergie renouvelable, donc, un gros morceau, c'est représenté par les filières biomasse. Donc, les filières biomasse, dans le scénario négawatt, les hypothèses, c'est... donc, aujourd'hui, hein, pour rappeler les choses, on consomme 90 millions de tonnes équivalent pétrole de pétrole en France, dont 50 mégatep de carburant. Dans le scénario négawatt, les carburants dans le secteur des transports, c'est 25 mégatep, donc on divise par 2 la consommation par rapport à aujourd'hui. Ces 25 mégatep sont assurés à 20% par des biocarburants et le reste par des carburants fossiles. Le secteur des transports reste le secteur sur lequel on a du mal à réduire significativement la part des énergies fossiles. L'effort principal est fait sur la réduction des consommations par des actions sur la sobriété et l'efficacité énergétique, plus que sur la substitution d'une énergie par une autre. L'utilisation totale de la biomasse énergie, c'est 45 mégatep. Donc ces 45 mégatep proviennent principalement de la valorisation, comme le disait Alain Lipietz, des déchets, sous-produits, résidus de toute nature, dont je vous parlerai ensuite, hein. Sans concurrence d'usage, donc notamment par le développement de la méthanisation, dont je vous parlerai aussi par ailleurs. Donc sans concurrence d'usage, notamment avec les utilisations agronomiques des matières organiques, hein, pour maintenir et restaurer, augmenter même la teneur en humus des sols. Donc sans concurrence d'usage avec les utilisations matériaux et alimentation. Et ces ressources sont complétées par 10 à 15 mégatep de culture énergétique au sens large, donc carburant ou combustible, dont ces 5 mégatep de carburant. Ça correspond à peu près à 10% du territoire, donc c'est les 10% qui étaient utilisés pour la traction animale avant le développement des moteurs. Donc il y a un certain nombre de principes que je voudrais vous exposer pour, comme guide hein, pour raisonner sur l'utilisation de la biomasse. Premier principe, c'est ben, rien ne se perd, principe connu. Donc là, vous avez l'exemple de la filière bois. Donc le bois, hein, c'est ben, la biomasse. Vous savez que c'est la fixation via la photosynthèse de gaz carbonique et d'eau grâce avec l'énergie solaire hein, et on transforme donc ces gaz en matière organisée hein, la matière organique c'est la matière organisée par les organismes vivants donc sous forme de lipides, glucides et protéines lignine, cellulose, etc. Donc ça c'est la matière stockée, fixée dans les matières végétales. Et donc ensuite, on va exploiter la forêt pour, pas la forêt tropicale évidemment, pour produire, donc par via les scieries, des matériaux de construction, des meubles, des emballages, etc. Via les usines de pâte à papier, on va produire du carton, du papier. Ça va être utilisé par les entreprises, par les ménages, ça va être recyclé autant que possible. Mais à la fin de tous les cycles d'utilisation, hein, le processus de transformation et d'utilisation, la matière sort du système, elle ne se transforme pas comme ça spontanément, elle sort du système. Donc elle va sortir du système dans les milieux naturels, donc dans l'air et dans l'eau et dans les sols. Donc on va générer des déchets, on va générer des eaux usées, on va générer des déchets de chantier qu'on va déconstruire, parce que maintenant on ne démolit plus, on va déconstruire les bâtiments, on va générer des déchets de première, seconde transformation, on va recycler les connexes de scierie pour faire de la pâte à papier, on va jeter les vieux papiers dans les poubelles, dans les water, il y a de la liqueur noire produite par les fabrications de pâte à papier, etc. Donc à chaque sortie de ces systèmes, il y a des solutions de traitement. Donc on va traiter ces sorties, ces déchets solides ou liquides, et il y a des techniques de traitement qui produisent de l'énergie. Donc en gros, il y a deux grandes familles de traitements. Il y a les traitements en gros aérobie, donc on va oxygéner les eaux usées pour transformer la matière organique qui pollue l'eau pour la transformer en CO2. Bon, c'est une façon de traiter. Et il y a des techniques anaérobies qui vont consister à récupérer ces eaux usées, à les faire fermenter et à transformer la matière organique non pas directement en CO2 mais en méthane qu'on va pouvoir utiliser. Voilà. Donc, dans ces modes de traitement de la matière qui permet de produire de l'énergie, donc il y a deux grandes filières, deux grandes voies. Il y a la voie thermochimique, donc c'est brûler la matière. Donc on casse les chaînes carbonées, on fait de l'énergie. Donc ça soit directement par combustion ou indirectement par les technologies de gazification. Et puis les voies biologiques, principalement la méthanisation. À chaque sortie du système, donc des technologies qui permettent de transformer ces matières en énergie plutôt que directement en gaz carbonique pour restituer au milieu ce qui a été prélevé. On prélève du CO2 et de la GESO, on restitue du CO2. Alors rien ne se perd, c'est pas tout à fait exact. Voilà. Dans la filière, dans les filières agricoles, donc c'est le même principe, hein, sauf que il y a donc deux grandes voies, les voies végétales et voies alimentation animale. Donc quand on alimente les animaux, on donne à manger 10 joules à une vache, et elle va restituer un joule sous forme de viande ou de lait, ou deux si c'est des poules, mais on a un bilan énergétique de 1 pour 10, hein, il y a un rendement thermodynamique de 10%. Voilà, on peut raisonner en rendement thermodynamique avec les animaux, comme avec nous d'ailleurs. Hein. Et donc on a un gros poste de déperdition d'énergie qui est effectivement l'alimentation animale. Il faut des unités d'énergie de végétale pour produire une unité d'énergie d'origine animale. Mais sinon, sur ces filières-là, sur l'ensemble de cette filière, il y a aussi des technologies pour transformer les différents sous-produits, résidus, etc., en énergie. Alors, quand on fait le bilan de tous les flux en France, donc il y a ce qui est produit d'un côté, donc ce qu'on prélève sur les sols agricoles et forestiers, on estime autour de 250 millions de tonnes de matière organique. Quand je dis matière organique, c'est lipides, glucides, protéines. Hein. C'est pas la matière brute, hein. Donc 250 millions de tonnes de matière organique. Là-dessus, il en reste 50 millions de tonnes qui est de la biomasse non récoltée, donc qui est laissée au champ ou qui est laissée en forêt, c'est-à-dire rémanents forestiers. Sur la biomasse récoltée, quand on fait le bilan des flux à la fin, les émissions de gaz, donc ce qui est perdu par le métabolisme des animaux sous forme de gaz carbonique, c'est 90 millions de tonnes. Et ce qui est récupérable sous forme de résidus, déchets, effluents, etc., c'est environ 60 millions de tonnes de matière organique. Et donc c'est ces 60 millions de tonnes de matière organique qui sont récupérables potentiellement pour faire de l'énergie. Alors une partie est déjà utilisée, c'est tout ce qui est bois énergie, hein, principalement, un peu de déchets ménagers par incinération, un peu de boue urbaine par méthanisation, etc. Ça fait 25 millions de tonnes, enfin c'est des estimations, 25 millions de tonnes. Et donc l'enjeu, c'est tout le reste, hein, aujourd'hui, biomasse brute récoltée, donc tout ce qui est déjections, fumier, paille, etc., les déchets de transformation de l'agroalimentaire et les déchets de consommation finale, où là-dedans on retrouve les déchets ménagers, les boues d'épuration, les déchets verts, les effluents industriels, etc. Voilà, donc 64 millions de tonnes ici, et ici 50 millions de tonnes de biomasse aujourd'hui non récoltées. Si on fait le bilan, alors c'est un petit peu déformé, bon, si on fait le bilan énergétique de l'ensemble de la filière alimentaire en France, donc il y a une étude qui a été menée par le CNRS il y a quelques années qui montre que l'ensemble de l'alimentation mobilise 40 mégatep en France par an. 40 mégatep dont un quart pour l'agriculture, un quart pour la transformation, les industries agroalimentaires, un quart pour le transport et la distribution et un quart chez l'utilisateur final, c'est-à-dire chez vous, hein, frigo, cuisinière, micro-ondes, congélo, etc. Donc 40 mégatep d'énergie principalement fossile, donc directe et indirecte, c'est-à-dire y compris l'énergie nécessaire pour fabriquer les engrais. Donc on met 40 mégatèbes sur les terres, enfin 10 mégatèbes plus exactement sur les terres agricoles, et on va générer 100 mégatèbes de biomasse. Donc ça c'est la biomasse sur pied, donc c'est l'ensemble, hein, le blé, donc la paille plus, plus l'épi. Donc 100 mégatèbes de biomasse sur pied. Sur ces 100 mégatèbes, donc on en exporte une partie, et l'essentiel de ces 100 mégatèbes est utilisé pour l'alimentation animale. Donc il y a, on peut estimer qu'il y a 70% au minimum ou 80% de la biomasse qui est utilisée pour nourrir les animaux. Les produits végétaux, ça représente 3 mégatèpes, donc ce qui arrive dans vos supermarchés, 3 mégatèpes, les produits animaux, 2 mégatèpes, et ce qu'on mange nous, hein, c'est 4 mégatèpes. Donc ça fait un bol de pétrole par jour. Donc tous les jours, vous mangez l'équivalent d'un bol de pétrole. Voilà. Et donc on a mis 40 mégatèbes d'énergie fossile dans la machine, on a récolté 100 mégatèbes sur les sols, et au final, ce qui arrive chez nous, c'est 4 mégatèbes. Alors pourquoi ? Ben parce qu'il y a des pertes qui sont importantes ici, qui sont dues, voilà, ici, 40 mégatèbes qui sont dues au métabolisme des animaux, donc très mauvais bilan énergétique, les vaches, les chèvres, les poules, les cochons, très mauvais rendement énergétique, et plus de 30 mégatèbes de résidus de culture. Enfin, et de résidus, des industries agroalimentaires, etc. Et c'est principalement ces 33 mégatèbes qui nous intéressent ici. Il y a des priorités dans l'utilisation de la biomasse. Effectivement, alors je ne sais pas s'il faut poser le débat entre manger ou conduire, il faut choisir parce qu'on a quand même besoin de conduire, enfin de se déplacer, sinon on ne serait pas là. Donc il faut bien quand même faire les deux. C'est une question de dose et de proportion et savoir... est-ce que c'est bien utile de venir ici ? Oui, hein, c'est utile aujourd'hui. Mais voilà, donc il faut raisonner sur les... la sobriété et l'efficacité. Mais il faut bien quand même aussi faire de l'énergie pour se déplacer, se chauffer, s'éclairer, etc. Bon, donc l'énergie, c'est de la matière organique, mais seulement, il y a des priorités dans les usages de la matière organique. Et la première priorité, c'est l'alimentation, les matériaux et l'énergie. On va utiliser, on va transformer la matière organique en énergie quand on n'a rien de mieux à faire. Parce que faire de l'énergie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire casser les chaînes carbonées. Donc quand on casse les molécules, après on les a plus. Hein, donc on ne peut plus recycler. Une fois que c'est transformé en CO2, vous ne pouvez plus récupérer le CO2, sauf faire de l'eau gazeuse, hein, n'est-ce pas ? Mais 40 millions de tonnes d'eau gazeuse, là ça va vraiment faire beaucoup, ça va ballonner quand même. Donc il faut utiliser la matière organique en dernier recours, hein, pour faire de l'énergie. Donc on va plutôt privilégier donc, tout ce qui est corps pur, complexe, lipides, amidons, ce qu'on appelle les réserves de la plante, parce que la plante met beaucoup de temps et d'énergie à produire. Hein, ça, c'est du boulot quand même, hein, la vie d'une plante, c'est beaucoup d'énergie dépensée. Et donc on va plutôt réserver ça aux applications nobles. Donc autre que les applications alimentaires, c'est on va faire des matériaux, on va faire des bioplastiques, on va faire du papier pour écrire des choses intéressantes. Mais ça on ne contrôle pas. On va faire des matériaux de construction, on va faire du chanvre pour isoler les maisons, du bois pour la construction, etc. Puis au bout d'un moment, ben, la maison en bois, il va bien falloir qu'on... au bout d'un moment, il va quand même recycler. Hein, le papier, pareil. Donc, on va recycler, mais il y a un moment où ça va sortir du système. Et donc, on retombe sur les schémas de tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va être des déchets dont on peut faire à ce moment-là de l'énergie. Et donc, on va plutôt privilégier l'utilisation en énergie de déchets et de résidus plutôt que l'utilisation des réserves de la plante. Là aussi, en matière d'énergie, il y a des priorités, parce que c'est vrai que faire rouler des voitures ou chauffer une maison, faire de l'air chaud à 20 degrés, c'est quand même pas tout à fait la même chose, donc il faut aussi nuancer tout ça. Il y a aussi des hiérarchies dans les différentes formes d'énergie. Donc voilà, donc d'où la formule E égale MO2, c'est presque aussi fort qu'Einstein, donc c'est la matière organique utilisée une deuxième fois, hein, et c'est l'énergie, c'est E égale MO2. Voilà. Alors, autre principe, c'est il ne faut pas concurrencer l'agronomie. La bonne agronomie, c'est la qualité des sols, ça veut dire notamment sa richesse en humus, en nutriments. Et donc, il est hors de question, évidemment, de mobiliser toute la paille, de les brûler pour en faire de l'énergie. Et donc, si on ne restitue pas l'humus au sol, on va dégrader les sols. Et donc, il y a une technologie qui existe pour ça, hein, qui permet de pallier à cet inconvénient, c'est la méthanisation. Donc la méthanisation, c'est ce qu'on appelle aussi la digestion anaérobie, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, on digère. Hein. Et donc, quand les bactéries digèrent, les bactéries, c'est des êtres vivants, c'est les premiers qui sont apparus sur Terre. Donc, ce n'est pas des OGM tout neufs, c'est des trucs qui ont 3 milliards d'années à peu près, ou plus. Hein, c'est beaucoup plus vieux que la photosynthèse. Les bactéries méthanogènes, ce n'est d'ailleurs pas des bactéries, c'est des archées. C'est une autre famille, voilà. Et donc, ces archées vont dégrader, vont digérer la matière organique et la transformer en éthane, en méthane et en gaz carbonique. Seulement, ces bactéries méthanogènes ne mangent pas tout. Et en particulier, elles laissent intacte la lignine. Il n'y a que certains champignons qui peuvent dégrader la lignine. Et donc, on va garder intact ce qui va générer l'humus. Voilà. Et donc, une installation de méthanisation, c'est on met des matières organiques dans le digesteur. Donc ici, vous avez un digesteur de boue d'épuration. Ici, vous avez une usine de méthanisation de déchets municipaux. Hein, et on va restituer au sol le digesta qui ressemble à du compost. Hein, c'est tout à fait similaire à du compost. Ça ressemble à ça. On va le restituer au sol et donc on va boucler le cycle des nutriments, l'azote, le phosphore, le calcium, etc. Et on va restituer l'humus. Donc voilà le petit schéma qui montre que dans les matières fraîches, donc on a de l'eau, on a des matières sèches. Dans la matière sèche, on a des matières minérales, c'est des nutriments minéraux. Et on a la matière organique, et toute la matière organique n'est pas biodégradable de la même façon. Il y a de la matière qui se dégrade facilement. L'alcool, on le digère très facilement. Ça passe tout de suite dans le sang, donc on le digère très vite. Par contre, les asperges, c'est plus compliqué. Donc voilà. Et donc les bactéries, c'est pareil, elles mangent ce qui est le plus facile, et puis ce qu'elles ne veulent pas, elles le laissent. Après, dans le sol, ça va continuer à évoluer. Donc le digesta, il contient encore de la matière organique active, ça peut même améliorer la population de lombrique, d'après les rares études qu'on a sur le sujet. Et donc on a un produit qui ressemble à du compost et qui contient en particulier tous les nutriments. Donc là, avec cette technologie, on n'a pas de concurrence d'usage de la matière organique pour l'agronomie. Voilà. Donc aujourd'hui, les filières méthanisation, on peut méthaniser, donc dans le scénario des mégawatts, le potentiel pour la méthanisation, c'est 15 mégatètes sur les 45 de biomasse au total. Donc c'est pas la totalité, là on parle de 1/3 de la production de biomasse du scénario mégawatt. Le reste c'est du bois, c'est autre chose quoi. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On est assez loin des 15 mégatètes quand même, il faut le reconnaître. On doit être à 0,3 à peu près. Donc il y a encore du travail, mais bon, il faut en laisser pour les deux générations qui viennent. Aujourd'hui, donc les déchets municipaux, donc la méthanisation des déchets municipaux, genre Amiens ou Varennes-Charcy plus récemment, ou la Martinique, qui sont trois usines en fonctionnement. Donc ces premiers projets vont être rejoints par d'autres projets à Calais, à Lille, à Montpellier, à Saint-Lô, à Marseille probablement, à Roanne, Bourg-en-Bresse, etc. Donc il y a un certain nombre de projets qui sont en projet ou certains sont bien avancés. Pour les boues d'épuration, donc les boues d'épuration, c'est une filière qui est mature. Méthaniser les boues d'épuration, ça se fait depuis plus d'un siècle. Ici à Quimper, je crois qu'on a, il y a quelqu'un de Quimper peut-être dans la salle. Il y a une station d'épuration qui méthanise donc ces boues d'épuration. Voilà. C'est plutôt stable. Effluents industriels, c'est aussi une filière qui est mature. Ça fait 30 ans qu'on a des installations qui fonctionnent. C'est en progression. La filière qui se développe aujourd'hui, c'est en agriculture. Donc avec, en gros, deux variantes. Il y a le biogaz à la ferme. Donc un agriculteur fait son installation chez lui pour méthaniser ses ressources, lisier, fumier. Culture énergétique. Ça tombe bien, une diapo. Donc des cultures énergétiques, des déchets de l'industrie agroalimentaire, des résidus culture, etc. Donc il fait sur l'installation pour produire de l'électricité et au passage on récupère la chaleur avec un souci. Qu'est-ce qu'on fait de la chaleur localement si on n'a pas de débouché? Donc ça c'est un des principaux obstacles au développement de ces filières. Ça veut dire qu'éventuellement il faut transporter le biogaz vers le village, faire un réseau de chaleur local pour alimenter le village avec un cogénérateur, etc. Et la deuxième variante, c'est le biogaz collectif, ce qu'on appelle la méthanisation territoriale. Donc là, l'idée, c'est de regrouper tous les acteurs sur un territoire, de faire une installation collective de méthanisation pour restituer un digesta à l'ensemble des utilisateurs de matières fertilisantes et de bénéficier d'effets d'échelle, de pouvoir mieux gérer l'énergie, etc. Et les enjeux à venir, c'est travailler sur les résidus de culture et sur les résidus, sur les cultures énergétiques. Pour l'instant, on pense que c'est vraiment pas la priorité. Peut-être dans 10 ans, ça va être intéressant. En Allemagne, il y a beaucoup d'installations qui fonctionnent comme ça, avec des cultures énergétiques de maïs. Alors l'intérêt, c'est que, bon, comme on travaille avec des matières humides, c'est forcément des filières locales. On va pas faire venir du maïs humide de Malaisie, ça c'est clair. Mais c'est quand même des filières sur lesquelles on peut quand même se poser beaucoup de questions. En tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est que les priorités, c'est travailler sur les résidus de culture, parce que là, il y a un gros potentiel et c'est complètement négligé. Et on en a quand même pour quelques années pour arriver à développer tout ce potentiel. Et voilà, donc pour nous, les vrais biocarburants, c'est les céréales du petit déjeuner pour emmener les enfants à l'école en vélo.
Merci beaucoup pour cette présentation, encore une fois, extrêmement rapide. C'est vrai qu'on a fait le choix d'avoir de nombreux intervenants, de leur demander d'intervenir brièvement, bien qu'ils soient venus pour la plupart d'assez loin, pour vous offrir quand même un panorama de l'état de la réflexion sur les agrocarburants à un moment où il va falloir que les Verts très rapidement aient des décisions, des positions tranchées et argumentées. Donc pour terminer, Yveline Nicolas qui va présenter le RADIS pour commencer.
Bonjour. Bon, alors comme c'est pas facile de venir en bout de chaîne et que je pense que tout le monde doit être relativement fatigué, je vais tâcher d'être assez brève. Vous m'entendez là? Et bon, par contre, moi je ne vous ferai pas une intervention hautement technique. Vous êtes maintenant formé de A jusqu'à Z sur cette usine à gaz en fait que constituent les agrocarburants. Donc je, sans jeu de mots, hein, je vais présenter rapidement les mobilisations, les positions d'un certain nombre d'acteurs associatifs qui sont réunis notamment au sein du réseau pour une agriculture, une alimentation durable, inventive et solidaire, le RADI, dont je fais partie au titre de l'association Adéquation. Je suis également membre, Adéquation, de l'Alliance pour la Planète, qui est un des collectifs associatifs qui négocie pour le Grenelle de l'environnement, un sujet d'actualité, je crois, pour l'Université d'été des Verts. Le RADI, en fait, a pour vocation d'essayer de réunir plusieurs familles d'acteurs qu'on estime tout à fait complémentaires pour travailler sur, pour faire émerger des positions et des plaidoyers sur les questions agricoles et alimentaires, c'est-à-dire les organisations paysannes et organisations rurales, les OSI, organisations de solidarité internationale, les associations de consommateurs et les associations environnementalistes. Sachant qu'il est assez difficile, en fait, de réunir ces différents acteurs et qu'en particulier, les associations de consommateurs sont souvent assez peu partie prenante de nos discussions et de nos actions, alors même qu'elles sont pourtant, elles devraient être directement concernées. Donc le RADI a créé un groupe de travail sur les agrocarburants. Ce groupe de travail a élaboré une position. Il a aussi organisé une journée de formation pour les associations. Il a fourni aussi au printemps dernier à ses membres des argumentaires pour répondre à la consultation de la Commission européenne qui avait lancé une consultation sur agrocarburants et environnement. Voilà. Je pense que le constat sur lequel à peu près tout le milieu associatif s'accorde, c'est le constat qu'on vient de faire, que les différents intervenants viennent de faire. Chacun met l'accent plus en fonction, on va dire, de sa sensibilité sur tel ou tel problème. Les problèmes d'efficacité énergétique médiocre, les problèmes de pollution, puisque les agrocarburants viennent d'une agriculture intensive. Alors je ne sais plus si on a parlé là tout à l'heure, mais il y a quand même le problème de la pollution par les OGM. parce que derrière les agrocarburants, il y aura aussi les OGM pour maximiser les rendements, et puis les OGM pour les arbres, les peupliers, eucalyptus, pins, c'est en train de se développer. Donc tout le monde est d'accord aussi dans le milieu associatif pour dire que la priorité devrait être la sécurité alimentaire. Bon, le thème de la souveraineté alimentaire des pays, des régions et des sous-régions, c'est vraiment le cheval de bataille des organisations de solidarité internationale. C'est clair que le développement de l'importation d'agrocarburants par l'Europe entre tout à fait en concurrence avec ce principe et ce droit humain de souveraineté alimentaire. Bon, d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des tensions sur les marchés alimentaires de plus en plus graves, sur le marché des céréales, etc. Les médias en parlent. Il y a le problème donc de la déforestation et plus globalement, il y a le problème du modèle agro-industriel qui est derrière cette génération d'agrocarburants. Bon, comme disait Alain Lipietz au début, finalement, comme d'habitude, la technocratie, on va dire, industrielle a pris le dessus sur ce qui aurait pu être une localisation de production, des circuits courts, une concentration sur les huiles végétales pour les exploitations, etc. Ce qui pose pour finir un problème de démocratie parce que ces choix n'ont pas vraiment été discutés. Alors, la principale position des associations du RADIL dans l'appel qui peut être signé par toutes les associations, c'est de demander le gel des investissements consacrés aux agrocarburants en France, jusqu'à temps qu'il y ait un réel débat public. On avait demandé, la position était de demander une conférence de citoyens sur les agrocarburants. Bon, ça, c'était avant le fameux Grenelle de l'environnement. Donc, par là-dessus, il y a le Grenelle qui arrive et qui met les agrocarburants à son ordre du jour, mais avec un jeu de balancier qu'il y a eu tout le temps entre le groupe 1 sur climat-énergie et le groupe... Enfin, les thèmes, hein, vous savez, il y a 6 thèmes dans le Grenelle, dont entre le thème climat-énergie et le thème mode de production et de consommation dans lequel on met l'agriculture. Alors le gouvernement, lui, il persiste à mettre les agrocarburants dans le thème bilan carbone, tandis que les ONG demandent plutôt à ce que ce soit dans la partie mode de production et de consommation et modèle agricole, parce qu'on estime qu'il faut que les agrocarburants soient resitués dans un débat général sur les politiques agricoles et sur la politique agricole commune en particulier. Voilà, il y a le même problème d'ailleurs avec les OGM. Le gouvernement veut le mettre dans santé et environnement. Les ONG veulent le mettre aussi dans mode de production. Parce que quand on met quelque chose dans santé et environnement, il suffit d'argumenter en disant qu'il n'y a pas vraiment d'études sur le fait que ce soit nocif. Bon, enfin, c'était un aparté. Donc, nous, au niveau du RADI, en fait, on a fait un tableau de bord un petit peu des positions des différentes associations. Que je compte réactualiser progressivement. Ça rejoint aussi les positions au niveau européen du Biofuel Watch Group qui demande un moratoire sur les objectifs de l'Union européenne en matière d'agrocarburants, intégrant les importations et les plantations d'arbres. Et de même, chose intéressante, demandant aussi un gel des aides et des prêts de la Banque mondiale. Bon, tout à l'heure, Emmanuel a parlé de l'impact très important de la politique de la Banque mondiale qui finance effectivement des tas de projets dans le Sud. Là où il y a parfois un clivage et des positions un peu divergentes, c'est sur les agrocarburants de deuxième génération. Tout à l'heure, il a été dit qu'en Hollande, par exemple, on considère qu'il faut miser sur les agrocarburants de deuxième génération. C'est aussi la position qui a été prise par le groupe de travail du Grenelle de l'Alliance de dire qu'il faut geler tous les investissements pour les agrocarburants de première génération, parce que je crois que tout le monde est convaincu que leur bilan énergétique est défavorable, et au contraire de pousser et de réinvestir ces finances et ces subventions pour la recherche pour les deuxième génération. Bon, je crois que là-dessus, par exemple, Patrick a une position assez critique aussi sur l'utilisation et l'efficacité énergétique des futurs agrocarburants qu'on nous présente de nouveau comme une panacée. Voilà. Sinon, la position de France Nature Environnement est à peu près la même que l'Alliance, sauf qu'eux, ils insistent plus sur les huiles végétales pures utilisées sur les exploitations, en demandant effectivement qu'il y ait des aides supérieures qui soient affectées pour l'autonomie énergétique des exploitations agricoles, sachant qu'en fait, c'est sans doute le seul usage le plus intéressant de ce qu'on appelle les agrocarburants. Si déjà on arrivait à une autonomie énergétique d'une partie des exploitations, je crois que ça nécessiterait qu'elles consacrent de toute façon 10 à 20% déjà de leur surface pour ces cultures-là. Globalement, je pense qu'on est d'accord pour dire que plutôt que de se lancer dans cette fuite en avant industrielle qui finalement a été poussée à l'origine non pas par un débat public sur l'utilité de telle ou telle énergie, mais en fait par les plusieurs lobbies, bon, les betteraviers et puis les céréaliers de plusieurs régions françaises qui sont quand même à l'origine de... qui ont réussi à convaincre les pouvoirs publics, de même que les filières pétrolières et les industries chimiques qui sont derrière. Donc en fait, comme dit le réseau Action Climat, il suffirait de diminuer la vitesse de nos voitures de 10%, ce qui est très peu, pour que ça fasse autant d'économies sur le CO2 que tout ce plan d'agrocarburant. Enfin, je pense que c'est vraiment les arguments qu'il faut mettre en avant, parce que ça veut dire qu'on crée une situation qui d'ailleurs à un moment donné devient irréversible, parce que construit des usines sans arrêt. Par exemple, j'ai lu récemment qu'il y en avait une soixantaine en construction en Espagne, et tout ça pour quelque chose qui de toute façon est forcément limité, parce que ça ne pourra pas aller, sauf à importer vraiment, à détruire l'ensemble des forêts des pays du Sud. Et alors, pour finir, bon, alors, inutile de dire qu'au niveau du Grenelle de l'environnement, il y a un acteur qui est à fond pour les agrocarburants, bien sûr, c'est la FNSEA, et qui est d'ailleurs dans tous les groupes de travail, quels qu'ils soient. Ils ont vraiment, c'est 1000 paquets, avec des moyens que les associations n'ont pas forcément de la même façon. Donc, sur le plan concret, maintenant, pour terminer... Moi, je trouve que le thème des agrocarburants, il est tout à fait emblématique, parce qu'il est transversal et il concerne absolument tous les aspects du développement soutenable, que ce soit la question économique, sociale, l'aménagement du territoire, l'impact sur l'effet de serre, la biodiversité, la politique agricole commune, le lien entre local, global, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'il serait urgent et utile... qu'on arrive à une campagne publique de plaidoyer. Nous, au niveau du RADI, on envisage de faire une journée d'études et de mobilisation sur la PAC et sur les agrocarburants avant la fin de l'année. D'autre part, il serait utile de maintenir, au moins comme disait Patrick, là, ce qui est absolument nécessaire, et ça, je pense que les Verts pourraient se saisir de la question, c'est de créer une pression et de la maintenir sur la question de cette fameuse étude de l'ADEME. Parce que si jamais l'étude, d'ailleurs pour laquelle nous, au niveau du Grenelle, on demande à ce qu'il y ait une contre-expertise et à ce que des acteurs indépendants, associatifs et de la société civile puissent faire partie du comité technique de suivi. Parce que si cette étude est confiée à une structure qui, en fait, n'est pas indépendante, et si cette étude est aussi, on va dire, contestée et contestable que la précédente, ça va plomber de façon quasi définitive enfin, n'exagérons pas, du moins s'il n'y avait pas de mobilisation militante derrière, ça serait très embêtant pour la suite. Donc ça, c'est, je dirais, c'est la priorité la plus urgente. Voilà. Et sinon, je pense qu'il serait utile aussi qu'il y ait une concertation entre collectivités territoriales et associations pour recenser toutes les pratiques alternatives, comme les pratiques de méthanisation qui sont effectivement un peu à développer. Et sachant que les ONG du RADI ou de l'Alliance n'ont pas forcément des informations très précises sur ce qui peut se passer au niveau local. Voilà, alors pour finir, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais il me semble qu'il y a une conférence internationale sur les agrocarburants en 2008 au Brésil, non, à l'initiative de l'Europe, des États-Unis, enfin d'un groupe, d'un forum international qui s'est mis en place et qui voudrait réguler peut-être les marchés. Ça serait l'horizon prochain, à mon avis, pour faire une action, une campagne. Merci.
Alors, dans le temps que nous avions pour ce forum, nous ne pourrons pas faire de débat questions-réponses. Je vais simplement redonner le micro à Alain Lipietz pour une courte conclusion.
Oui, je voudrais d'abord remercier les nombreux intervenants qui sont venus pour certains de si loin. Je pense que vous avez pu mesurer à l'occasion de cette table ronde qu'avec la question des agrocarburants, nous nous trouvons face au même genre de nœud pour les écologistes que la bataille sur la directive REACH, que la bataille sur le nucléaire, que la bataille sur les OGM. C'est-à-dire que c'est vraiment un nœud où, en tirant la ficelle, on arrive à tous les aspects de la vie, y compris les choix éthiques les plus fondamentaux et les définitions les plus profondes de l'écologie et de l'écologie politique. Alors, si on peut résumer ce débat, qu'il va falloir un certain temps pour assimiler nous-mêmes. D'abord, ce point de départ, nous avons affaire à, non pas un problème énergétique, qui serait alors les uns raréfaction du pétrole, les autres effet de serre, les autres risques nucléaires, mais un triangle de risques écologiques. Je l'ai dit au début, nucléaire, énergie fossile, compétition sur l'usage des sols. Et la solution, la seule solution qui attaque les trois côtés du triangle à la fois, c'est évidemment les économies d'énergie, la sobriété et l'efficacité énergétique. Comme ça a été rappelé dans le tableau négawatt. Mais dans le cas dans le cas particulier donc de ce troisième côté du triangle, la compétition pour l'usage des sols, je crois que c'est extrêmement intéressant parce qu'on doit faire des arbitrages démocratiques et éthiques même d'une certaine façon. Les Anglais ont une façon ils sont toujours très forts pour trouver des sigles rappelant, faisant la synthèse des problèmes. Ils appellent ça le problème FFFF. Food, feed, fuel et forest. On peut utiliser les sols pour faire de la nourriture, food, pour nourrir les bêtes, feed, pour faire de l'énergie pour le transport, fuel, et forest pour sauvegarder la biodiversité ou stocker du carbone éventuellement. Bon, je crois que c'est bien ça le problème. Bon, quand on dit on va réserver 10% de la surface agricole à la production du fuel, c'est-à-dire l'énergie, suivant le critère du cheval. Avant la révolution industrielle, il y avait 10% de la surface agricole utile pour l'avoine des chevaux. Hein. Bon, bah, c'est pas plus con qu'autre chose comme critère. Mais enfin bon, c'est quand même un choix. C'est pas parce que les chevaux ont consommé 10% que c'est vrai. Hein. Donc il faut avoir une discussion démocratique là-dessus. Quand on dit, j'ai bien aimé l'expression, rien ne se perd sauf la respiration. Il s'agissait de la respiration animale. C'est énorme. Vous avez vu que c'était plus gros que toute la biomasse résiduelle, hein, la respiration animale. Bon, ben, c'est l'espace qu'on donne aux animaux. Alors, c'est l'espace qu'on donne aux animaux pour les manger après. Attention, hein, c'est pas les animaux dont parle Emmanuel, qu'il s'agit de sauver dans le cadre de la biodiversité. Bon, cela dit, les vaches, c'est quand même un animal relativement sympathique. Hein, on ne va pas éliminer les vaches sous prétexte d'augmenter notre capacité de nous transporter. Il y a toute une série de problèmes comme cela. D'un autre côté, quand on voit que la quantité, enfin le détour énergétique de l'alimentation pour l'élevage est supérieur à toute la biomasse dont on dispose de chute en quelque sorte, ça pose des questions sur l'option viande, sur la place de la nourriture végétarienne dans notre propagande, etc., etc. Bon, je crois que on pourrait commenter pendant des heures sur l'ensemble de tout ce qui vient d'être dit là. Nous devons partir pour aller soutenir une exploitation modèle. Et donc, je pose le micro. Et je vous invite à suivre notre ami et nos amis du Finistère pour cette opération traditionnelle dans nos journées d'été de soutien à une lutte modèle. Merci beaucoup à tous.
Donc, juste pour ceux qui sont inscrits pour prendre le bus direction la ferme de Calavic, donc on y va tout de suite. Donc, rendez-vous place de la Résistance. Je prends 3 minutes pour vous récupérer, si vous voulez, en bas de la salle ici. Mais la place de la Résistance, c'est à 200 mètres en suivant donc la rue de Dornenay, là. Et on embarque tout de suite. Rappelez-vous, 4 euros. À tout de suite.